Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Soyez simples comme des colombes, c'est l'invitation de Jésus rapportée par l'évangéliste Matthieu. Mais qu'est-ce que la simplicité? Est-ce que c'est de la naïveté, la sobriété ou bien la sérénité? Et que peut apporter la simplicité à notre vie spirituelle? Éloge spirituel de la simplicité, c'est l'ouvrage du père Maximilien Lefébure-Dubu que nous vous faisons découvrir aujourd'hui et nous sommes en ligne avec lui. Bonjour père.
Oui, bonjour Isabelle.
Vous êtes chanoine régulier à l'abbaye de la Grâce dans l'Aune. Merci de nous accorder ce temps pour réfléchir à ce beau sujet qu'est la simplicité. Pour commencer, j'aimerais que vous nous définissiez tout simplement ce terme, la simplicité. On la confond souvent avec la naïveté, la sobriété ou la sérénité. Quelle distinction faites-vous, père Maximilien, entre ces différents termes?
Alors, cette première question est assez délicate parce qu'on a du mal justement à avoir une vraie définition de la simplicité. Si vous regardez les dictionnaires, en effet, on a ce que vous venez de citer, la discrétion aussi, la modestie. Et en fait, on n'est jamais satisfait des définitions. Ça me fait penser un peu à chercher à définir l'humilité, c'est quasiment impossible aussi. Donc en fait, il faut définir, c'est un peu la voie que je propose, par les contraires et voir en quoi ce qui s'oppose directement à la simplicité.
Parce qu'elle n'est pas en fait.
Voilà, ce qu'elle n'est pas. Et en effet, c'est contre la simplicité, il y a la duplicité, il y a la multiplicité, il y a la complication, la complexité. Voilà. Donc, c'est avec cela qu'on peut approcher la simplicité. Ensuite, vous avez peut-être la solution de passer par l'étymologie. L'étymologie, dans le mot simple, simplex, il y a sans pli. Être simple, finalement, c'est être sans pli, c'est-à-dire sans repli, sans ombre. Sans dissimulation. Mais donc, avec cela, on commence à aborder la simplicité. La simplicité, c'est finalement être intègre, avoir une unité qui ne cache rien. Et donc, on comprend que ça va ensuite s'opposer à la complexité, que ça va s'opposer à la diversité aussi. Voilà un petit peu déjà une petite approche qui peut nous aider à réfléchir sur cette belle vertu de la simplicité.
Alors, vous dites que c'est une vertu. Est-ce qu'elle est vraiment dans la liste des vertus?
Oui, tout à fait. Elle est dans la liste donnée par saint Thomas d'Aquin. C'est une vertu annexe. C'est-à-dire une vertu qui se range sous la vertu de justice et plus précisément de la vertu de véracité, de vérité. Être simple, finalement, c'est être vrai. Avec une division très, très générale, mais que nous verrons est assez pertinente.
Alors effectivement, on pourrait dire aussi que la simplicité, ça nous fait penser à quand on dit « Oh là là, celui-là, il est un peu simplet ». Mais alors là, on n'est pas du tout dans ce registre-là.
Oui, en effet, vous avez raison. C'est qu'il y a quand même une approche un petit peu négative du mot simplicité. On le voit dans Blanche-Neige, le simplet, c'est quelqu'un de gentil, un peu naïf et un peu bébête. Donc, c'est un peu péjoratif, être simple. Et moi, j'aimerais qu'on redécouvre la vertu, la grandeur, l'excellence de cette petite vertu.
Alors justement, c'est pour ça qu'on est là avec vous aujourd'hui, puisqu'on va redécouvrir cette vertu qu'est la simplicité. Vous nous avez dit, Père Maximilien, que finalement, c'était être sans pli, être sans complexité, sans complication. Et c'est peut-être le moment de prendre conscience de ce qui nous encombre et ce qui nous empêche d'être sans pli. Qu'est-ce qui vraiment est un frein à la simplicité dans notre monde d'aujourd'hui, dans notre vie?
Notre vie actuelle, me semble contemporaine, est sursollicitée par l'extérieur. Nous sommes beaucoup plus extérieurs que ne l'étaient nos grands-parents et nos anciens, en raison à la fois des connexions, c'est certain, des relations que nous avons par tous ces moyens modernes de communication et qui sont heureux et utiles, mais aussi parce que finalement, ayant davantage de biens, de confort, étant dans une société matérialiste, on a beaucoup plus de choix. Et donc, plus on a de choix, plus on est finalement un peu éclaté, un peu partagé. Et aussi, plus on est sollicité, plus on a de relations, plus aussi on se démultiplie, on sort de soi-même, On s'éclate, si vous voulez dire le terme renvoie à la fête, mais on comprend bien. S'éclater, c'est finalement sortir de soi-même et perdre son unité. Et je pense qu'aujourd'hui, on est très, très éclaté et donc on manque malheureusement de simplicité.
Et tous ces choix qui nous sont donnés, toute cette multitude de relations, est-ce que ça entraîne aussi pour nous une difficulté à nous décider?
Oui, complètement. Je pense que là, une autre vertu qui est un peu qui est en souffrance aujourd'hui, c'est la vertu de prudence. La vertu de prudence, c'est la vertu du choix qui nous permet de choisir. Et quand il y a trop de choix tue le choix. Donc voilà, c'est assez simple.
D'accord, trop. Et il y a aussi peut-être une peur qu'on peut avoir avec toutes ces sollicitations de n'en avoir plus aucune et d'avoir des temps morts. Et ça nous fait peur aussi quand même, hein.
Oui, tout à fait, complètement. C'est que choisir,
C'est
c'est
renoncer.
renoncer obligatoirement. Donc, il y a un sacrifice dans tout choix. Hein. Quand on se marie, quand on rentre en vie religieuse, quand on achète une maison, une voiture, on renonce à autre chose et on renonce à d'autres possibilités qui auraient été peut-être alléchantes. D'où la difficulté que nous avons aujourd'hui, que nos contemporains ont de s'engager hein, et de prendre des responsabilités qui finalement les cadres et les limites.
Et ça me fait penser à votre précédent ouvrage pour lequel nous avions aussi fait une émission, L'éloge du repos, où vous encouragiez, notamment pendant les vacances, à avoir ce temps de repos. Alors, repos en Dieu, évidemment, mais pour éviter, arrêter de courir partout et de répondre à toutes ces sollicitations. C'est ça aussi, la simplicité, c'est d'accepter ce repos aussi.
Oui, complètement. En fait, les deux livres sont liés. En fait, le constat de l'absence de repos dans nos sociétés contemporaines conduit finalement à cette petite vertu de la simplicité. Je pense que les deux sont connexes. Voilà, j'ai pas traité deux sujets totalement distincts.
Donc il y a un lien effectivement à faire entre le repos et la simplicité. Il y a aussi un autre lien, en tout cas un conseil très fort que vous donnez dans votre livre, Père Maximilien Lefebvre-Dubus, c'est de revenir à l'esprit d'enfance pour éviter justement cet émiettement de l'être, cette dispersion. Qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce qu'a cet esprit d'enfance et que nous avons aujourd'hui perdu?
Ce que j'aime chez l'enfant, c'est cette qualité d'émerveillement. C'est et aussi cette qualité qui le dispose à vivre le présent et l'instant profondément. Lorsque l'enfant joue, il joue. Il ne travaille pas. Il a du mal à se projeter en avant. Et il fait pas trop de retour en lui-même, hein, sauf cas particulier. Il est tout entier dans son jeu et dans son jeu, il est à la fois grave et il se disperse pas, il est concentré. Ben cette vertu d'enfance, c'est une vertu d'intégrité. Il est entier, donc pas divisé. Il est sans calcul, il est sans arrière-pensée, il est sans double jeu. Et donc, il n'est pas double. Et s'il n'est pas double, il est simple. Et c'est pour ça que le Christ et tout l'enseignement de la tradition spirituelle nous invite à ressembler à un enfant, hein, dans notre relation avec lui, avec le Seigneur, mais aussi avec les autres, hein, qui permet cette véracité des actes, cette authenticité.
Et justement, quand vous parlez de cet émerveillement, qu'est-ce que vous pourriez nous donner comme conseil pour retrouver peut-être cette capacité d'émerveillement?
Alors je pense que déjà, comme vous avez dit, il faut se reposer, c'est prendre du temps. Prendre du temps pour mesurer combien il est beau d'être aimé, combien la création est admirable, combien la vie est appréciable, combien cette fleur est belle, ce paysage est incroyable. Mais à force de courir, eh bien, on a la tête dans ses pieds, hein, et donc on voit que le sol et on ne voit pas l'extérieur. Et à force de renoncer à donner du temps aux autres, à Dieu et à la création, eh bien on abîme sa capacité d'émerveillement et on vieillit, on devient vieux.
Ouais, c'est ça, on
Un,
se
voilà,
ferme.
pardon.
Oui, je vous
Un
en
vieux,
prie.
un, un, une personne âgée qui est contemplative, quand on voit par exemple Mère Teresa, moi ça me frappe, hein, malgré voilà, tous ces rides, c'est une enfant dans son visage, parce que c'est une contemplative qui continue à s'émerveiller des beautés, des grandeurs de Dieu.
Et vous donnez, pour illustrer cet esprit d'enfance, deux exemples dans votre livre. Vous parlez du Petit Prince et vous parlez aussi de Bernadette Soubirous. Lequel des deux exemples choisiriez-vous pour illustrer cet esprit d'enfance?
Eh bien, vous me demandez de choisir, donc je de renoncer. Alors, je choisirais peut-être la petite Bernadette, qui est moins connue, que j'apprécie beaucoup, hein, et qu'on vénère tous. Elle a vraiment cette simplicité d'enfant, hein, et qu'elle gardera jusqu'à sa mort. J'ai un exemple, je ne sais pas si j'ai cité dans le livre, mais j'en ai un autre d'elle, où on l'interroge sur les apparitions de Lourdes. C'est un évêque qui l'interroge, ou enfin des prêtres qui l'interrogent, et lui demande est-il vrai que tu as vu la Sainte Vierge? Elle répond oui, monsieur l'abbé. Et l'abbé qui l'interroge, l'expert, moi je ne crois pas que tu l'aies vue. Et elle répond oh, elle ne m'a pas dit de le faire croire. Bon, moi j'aime cette réponse, il y a rien à dire, elle est vraie. Elle cherche pas à argumenter, elle n'est pas scandalisée, elle dit la vérité. Voilà, la Sainte Vierge m'a dit de dire qu'elle a un message à nous confier. Voilà, et je remplis cette mission. Que vous croyez ou croyez pas, ça m'est égal. J'aime cette sérénité, ce calme, cette paix de la petite
Et
Bernadette.
cette simplicité,
Ouais.
toujours dans cet esprit d'enfance, vous parlez quand même de la joie, hein, d'une innocence joyeuse, par
Oui,
Maximilien.
en effet, je pense que c'est vraiment un des fruits de la simplicité, ça nous donne de la joie. Si l'on fait nos actions avec vraiment une vraie conscience bien présente à cette action, eh bien on goûte d'une vraie joie, parce que à partir du moment où on est dans notre être, dans notre personne, bien conforme à la volonté du Seigneur, lorsque nous sommes bien. Voilà, nous sommes bien conformes à ce que nous devons être, et bien il y a une sorte de plénitude, de jouissance. C'est Saint-Exupéry qui donne cet exemple dans Terre des hommes, que j'aime beaucoup aussi. Il s'écrase avec son avion, et dans les débris, il ne trouve qu'une orange. Et donc ils sont deux avec son copilote, ils partagent l'orange, et il décrit dans une page sublime sa joie. Il a tout perdu, il n'a plus rien, il est à peu près sûr de mourir, mais il a sa demi-orange, et il dit: je m'allonge sur le dos, je suce mon fruit, je compte les étoiles filantes, me voici pour 1 minute infiniment heureux. Là, voilà, c'est l'exemple même de la simplicité, de la joie qui en ressort, qui en émane.
Très belle illustration. Vous l'avez évoqué avec Bernadette Soubirous, Père Maximilien, il y a cette vérité, un autre synonyme de la simplicité, ça peut être la vérité. Qu'est-ce qu'il faut, pareil, changer dans notre vie, dans notre manière d'être, pour être en vérité?
Bien, être vrai, c'est être conforme dans nos paroles, dans nos actes, à ce que nous sommes. Et donc, ça signifie de perdre cette tendance que nous avons à porter des masques, à jouer un rôle. Et la vie sociale, parfois, nous conduit à le faire, et le regard qui est posé sur nous nous rend pas vrai, hein, abîme cette vérité. La simplicité, c'est celui voilà, qui ne cherche pas à imposter, qui ne cherche pas à faire du théâtre. Et c'est pour cela qu'on a cette critique, hein, du simple. C'est que le simple, parfois, il fait des maladresses, parce qu'il dit ce qu'il est, et ça lui est parfois reproché. Mais je crois vraiment qu'une source de sérénité, c'est être authentique, c'est ne pas porter ce masque, jouer bien sûr ce double jeu, hein, même si c'est pas toujours conscient. Il faut vraiment être soi-même.
Et être
Voilà.
soi-même, ça implique d'accepter ses limites, et ça, c'est pas forcément évident.
Et complètement. Et accepter ses limites, c'est être simple, et donc c'est être humble. Bah, ici, un synonyme de la simplicité, c'est l'humilité. L'humilité, c'est être humble, c'est être vrai envers Dieu et envers les autres. Être simple, c'est cela. Accepter que je ne suis pas parfait, que j'ai des limites, des défauts, et que, mais que le Seigneur m'aime et que je fais tout mon possible avec sa grâce pour donner le meilleur de moi-même pour dans ma vie, dans mon travail et dans ma relation avec le Seigneur.
Vous avez cette citation dans votre ouvrage de cette auteure qui s'appelle Elisabeth Gudge, là, le pays du dauphin vert, un livre avec tout ce charme de la littérature anglaise, puisque vous dites que justement pour être en vérité, pour être dans ce synonyme de la simplicité, non seulement il faut accepter ses limites, mais il faut aussi discerner ses dons et ses aptitudes. Et il y a ce passage que vous relatez qui est absolument délicieux, de cette jeune Marguerite qui a 17 ans, qui est pleine de fraîcheur et de simplicité, écrivez-vous. Et en fait, elle se trouve jolie. Elle se trouve jolie, elle dit, eh bien, je crois que je suis vraiment belle. On pourrait se dire, mais dis donc, quelle prétentieuse celle-là. Et effectivement, c'est ce que lui répond sa sœur Marianne, et tu es assez vaniteuse pour le dire. Et Marguerite répond, si je suis belle, ce n'est pas à moi qu'en revient le mérite, c'est à Dieu, c'est à lui que je rends grâce en ce moment.
Oui, c'est assez super, oui. Et c'est vraiment une forme d'humilité. Il y a une humilité dans l'appréciation de nos qualités, hein, qui sont, dans la mesure où on les vit comme des dons de Dieu. Et c'est exactement ce que fait cette jeune fille, enfin, décrite, hein, par la romancière. En effet, ça c'est exquis comme
Ah
passage.
oui, ah oui, d'une délicatesse, et c'est joyeux en fait. C'est vraiment prendre compte de ses limites, enfin voilà, prendre compte de ses limites, prendre conscience plutôt de ses limites, prendre conscience aussi de ses dons et de ses aptitudes, et en rendre grâce à Dieu.
Oui, tout à fait. Et ça nourrit notre espérance aussi, parce que nous savons que bah, tout est possible et que si le Seigneur nous a donné des qualités, je ne sais pas, de chant, une beauté physique ou une beauté physique ou des qualités intellectuelles, et on va s'en servir pour sa gloire. Hein. Et la difficulté, bien sûr, le point saillant, le point focal, c'est d'arriver à ne pas les rapporter à nous-mêmes, hein, et toujours à la fois les offrir, les valoriser, mais tout en nous en dépossédant.
Ouais, ça c'est un travail de toute une vie, je dirais, hein, quand même.
Oui, en effet.
Vous évoquez dans votre livre, Père Maximilien, la simplicité de Dieu. Alors, c'est pas forcément l'image qu'on se fait du bon Dieu. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Mais je suis frappé de voir que, de même que nous compliquons un peu toutes nos relations avec les autres, eh bien on est capable de compliquer notre relation avec le Seigneur, avec Dieu. Or, Dieu en lui-même est simple, hein. Dieu, il est Trinité, une Trinité de personnes, trois personnes, mais une Trinité qui est unie dans une même substance, hein, l'unité de Dieu. C'est pour ça que Saint Thomas d'Aquin, lorsqu'il étudie Dieu dans ses attributs, il va en premier dire Dieu est simple. Dieu est simple parce qu'il n'est pas composé, il n'est pas complexe, il est un. Malgré, en effet, cette diversité de personnes qui ne nuit pas à son unité. Et donc, pour nous, c'est un bel exemple, puisque à la fois nous avons aussi une multiplicité de facultés, d'éléments dans notre personne, et pourtant, nous sommes une personne unique, et avec un sujet unique qui est notre cœur, un cœur unique, hein, qui va unifier nos actions et nos désirs, et une intelligence qui va unifier nos pensées.
Et donc finalement, on peut encore ajouter le mot unité, un nouveau mot à la simplicité, cette unité de Dieu dans la Trinité, et puis cette unité en nous, corps, cœur, esprit, et puis cette relation de l'homme avec Dieu qui est aussi une relation unifiée.
Ouais, complètement. Donc on voit maintenant, en avançant, que simplicité, en effet, peut se conjuguer avec unité, et que la clé, hein, d'acquisition de la simplicité sera finalement une recherche constante et paisible de notre propre unité. Et cette unité, nous la trouverons, mais bien sûr, par le sens que nous donnerons, l'orientation que nous donnerons à nos vies, à nos pensées, à nos désirs, dans notre chemin, vers le ciel.
Je vous propose qu'on se retrouve, Père Maximilien Lefebvre-Dubus, juste après la pause musicale. Vous nous direz justement comment on peut accueillir le Seigneur et gagner en simplicité. Alors nous allons écouter un prélude, le prélude numéro 4 de Jean-Sébastien Bach. J'ai choisi cet extrait parce que Bach, on pourrait se dire que c'est très simple, mais en fait, ça ne l'est pas tant que ça. Mais en tout cas, c'est souvent une musique qui est assez limpide, assez dépouillée. Donc cet extrait interprété par Sarah Danespour.
Présence. Vivante Église, Isabelle Duché.
Nous sommes avec le père Maximilien Lefébure-Dubu, chanoine à l'abbaye de la Grâce, pour parler de son dernier ouvrage, Éloge spirituel de la simplicité chez Arthège. Vous nous disiez juste avant cette écoute du prélude numéro 4 de Jean-Sébastien Bach que la simplicité, c'était l'esprit d'enfance, l'émerveillement, la joie, c'était aussi l'humilité, la vérité, l'unité. On a beaucoup de liens qui se font. Et vous nous disiez que l'unité, c'était aussi être en lien avec l'unité de Dieu, à l'image de l'unité de Dieu dans la Trinité. Maintenant, j'aimerais bien vous demander comment on peut accueillir le Seigneur et gagner ainsi en simplicité.
Alors, en effet, accueillir le Seigneur, c'est déjà rien que cette expression, elle est assez inouïe. Nous avons la possibilité d'accueillir le Seigneur parce que le Seigneur vient à notre rencontre. Il est sans cesse à la porte de notre âme. Vous connaissez cette belle phrase de l'Apocalypse, hein. Dieu, je suis aux portes de.
Voici que je me tiens à la porte.
Voilà.
Je frappe.
Je suis perdu, désolé. Voici que je me tiens à la porte et je frappe et j'attends que tu ouvres. Bon, de mémoire. Et c'est à nous de répondre et d'ouvrir la porte. Et pour cela, il y a plusieurs façons plusieurs moyens qui nous ont été offerts justement par révélé à la fois par l'écriture avant la venue du Christ et ensuite par la venue du Christ, hein, tous ces moyens qui nous ont été révélés. Les premiers moyens, c'est bien sûr la vie sacramentelle, l'Eucharistie, les bénédictions, tout ce qui nous est donné de façon sensible, la vie sacramentelle. Et mais ensuite, vous avez la lecture de la parole, qui est à chaque fois une rencontre avec le Seigneur, et aussi l'oraison, la prière en cœur à cœur, qui est vraiment une mise en œuvre de nos vertus théologales, de foi, d'espérance et de charité, qui vont directement à la rencontre de Dieu, et de façon très simple, que nous soyons à l'église, dans notre chambre ou dans notre voiture, nous rencontrons le Seigneur, et nous l'accueillons, comme vous le dites.
Et vous avez ce terme très, très juste de dire que finalement, nous l'accueillons comme un ami.
Oui, c'est un peu un défi. Jusqu'à la venue de Jésus, Dieu était vu comme un souverain un petit peu terrible, hein, qui donne les tables de la loi à Moïse, qui pourfend les ennemis. Et la révélation nouvelle, la venue du Christ, nous amène à cette certitude, cette évidence, là aussi, incroyable, que Dieu se comporte avec nous comme un ami. Il le dit à ses apôtres: je ne vous appelle plus désormais mes disciples, mais mes amis. Cette relation d'amitié est possible. Et cette relation d'amitié que jamais aucun philosophe n'avait pu imaginer, aucun philosophe de l'Antiquité, que ce soit les plus grands comme Aristote et Platon, eh bien, le Seigneur la rend possible, hein, cette relation d'égalité, par les vertus théologales de foi, d'espérance et de charité, qui fait de nous, oui, des amis en communion avec le Seigneur, et en communion réelle. Et c'est cela qui est prodigieux et merveilleux, et que bien souvent on oublie, tellement nous sommes compliqués, et aussi tellement nous avons en mémoire et en souvenir peut-être un portrait trop,
Trop strict.
ouais, trop strict ou trop lointain, hein, de Dieu, du
Oui.
Seigneur.
Et là aussi, finalement, ça nous apprend à nous simplifier en imaginant vraiment et en mettant en œuvre cette amitié avec Dieu. C'est une simplification de notre foi.
Oui, en effet. Et c'est ça qui est très rassurant, et qui finalement fait que nous croyons au Seigneur, nous le touchons, que nous soyons enfants ou vieillards ou prêtres, une sorte d'égalité, de dignité dans notre relation avec le Seigneur. Le Seigneur veut nous sauver tous, et à tous, il nous donne les moyens de le rejoindre de façon à la fois immédiate et simple.
Vous écrivez dans votre ouvrage qu'il faut se simplifier par la parole de Dieu. Alors, vous l'avez évoqué, hein, la parole de Dieu, c'est vraiment un don que Dieu lui-même nous fait. Mais j'aimerais bien que vous nous expliquiez comment, parce que parfois, on est face à un passage, on ne comprend rien, on se dit, mais comment le Seigneur me parle à travers cette parole? Ou bien on a du mal même à garder son attention. Quel conseil vous pourriez nous donner pour se simplifier justement par cette parole de Dieu?
Il me semble qu'il faut se rappeler que la parole de Dieu, c'est un don. Et donc, même si on n'a pas toute la compréhension, même si on n'en voit pas toutes les exigences et voilà, et tous les sens, et le sens profond, recevoir la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, l'écouter, et on le fait de façon solennelle dans l'Eucharistie, dans la liturgie, cette écoute de la parole de Dieu, nous modèle, nous façonne, au-delà même de notre compréhension immédiate. Il y a ce qu'on appelle la valeur performative de la parole de Dieu, de l'écriture. Il y a une valeur quasi sacramentelle, ou plutôt plus précisément sacramentale, de la parole de Dieu. Alors, ensuite, il y a des mots de la parole de Dieu qui vont nous toucher au fond de notre être. Et l'Évangile, en particulier les propos du Christ, nous frappent à notre cœur tellement ils sont à la fois évidents et recevables, même à notre intelligence, même si quelquefois nous rebellons. Je pense aux béatitudes, je pense au discours sur la montagne. Eh bien, nous les recevons, et à chaque fois, en les recevant avec générosité, avec humilité, eh bien, ils nous simplifient et ils façonnent notre cœur.
Oui, et puis comme vous dites, parfois la parole ne nous touche pas, mais en fait, elle est un peu comme ce grain de blé qui tombe dans la terre et qui met parfois du temps à mûrir. Et ça peut être longtemps a posteriori que cette parole porte du fruit et se révèle.
Oui, tout à fait. Et vous l'avez sans doute tous expérimenté. On entend un évangile qu'on avait entendu ou écouté des dizaines de fois lors d'une messe, et un mot, une phrase nous touche alors qu'elle ne nous avait jamais touché. Ou alors, comme vous dites, une expression vient frapper notre cœur des temps longtemps après l'avoir entendu la première fois, comme le fait en fait le ferment dans la pâte.
Oui.
Qui va donner son fruit,
Oui.
faire lever la pâte.
Vous donnez évidemment comme exemple de simplicité Jésus, hein, le Christ. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel modèle il est pour nous dans cette simplicité?
Mais Jésus, il est modèle en simplicité pour beaucoup de raisons. D'abord parce qu'il naît en toute pauvreté. Et cette pauvreté du Christ, ce dénuement, le rend extrêmement abordable, extrêmement simple. Il ne vient pas avec un cortège, avec un apparat. Et ça, c'est la première approche qui induit cette compréhension de la simplicité comme une forme de sobriété, hein, une forme et donc une forme de pauvreté, la simplicité. Et c'est vrai, dans le langage courant, on va dire, j'ai un mode de vie qui est simple. En général, ça veut dire que c'est un mode de vie modeste ou pauvre. Donc, c'est là, à mon avis, la première approche. Ensuite, le Seigneur se présente comme un modèle de simplicité parce qu'il ne cesse de nous prêcher l'esprit d'enfance, qui est un esprit de simplicité, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Et ensuite, parce que aussi dans la façon dont il se comporte envers ses disciples, envers ses amis ou envers le peuple juif. Et il a un comportement extrêmement, je trouve, simple, économe à la fois en parole et en gestes. C'est très frappant de voir comment il procède par exemple, dans ses miracles, que ce soit à Cana, que ce soit avec la multiplication des pains. Il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de c'est pas spectaculaire. Il y a pas de On voit bien que c'est pas un marabout, un magicien.
Pas
Il agit
d'esbrouf.
quelques mots. Et le miracle survient et avec beaucoup de sobriété et d'économie de moyens. Moi, ça me touche beaucoup. Il y a pas de mise en scène. C'est pas spectaculaire, même si de fait le fruit est spectaculaire puisque lorsqu'on a les 600 litres de vin à Cana, c'est spectaculaire.
Oui, et puis les guérisons et le retour à la vie de Lazare, effectivement, c'est
Voilà.
spectaculaire. Et pourtant, c'est une parole, un geste.
Voilà, lève-toi ou voilà, va et pars en paix et prends ton grabat et marche.
Oui.
Exactement.
Et c'est ce contraste entre la pauvreté, la simplicité du geste et du mot et la grandeur du fruit dont vous parliez, qu'on retrouve aussi dans les sacrements, dans l'Eucharistie, le pain, le vin. Donc, on ne peut plus simple comme élément, une parole du prêtre, et puis c'est la présence du Christ à l'instant T.
Oui, en effet. Vraiment, l'Église poursuit l'œuvre du Christ. Hein. L'Église, c'est vraiment l'Église continuée. Et les sacrements utilisent la même pédagogie qu'a utilisée le Christ. Hein. Extrêmement simple et donc extrêmement rassurante pour nos âmes de fidèles. Hein, de voir qu'il n'y a pas il n'y a pas de mise en scène, ce n'est pas compliqué. Et c'est rassurant pour les fidèles et aussi pour le prêtre, hein, qui se sent vraiment comme l'instrument du Seigneur et voilà, et la main du Seigneur, la bouche du Seigneur lorsqu'il agit, puisqu'il continue de façon identique ce que le Seigneur a fait de par son ordination sacerdotale.
Vous avez employé le mot, Père Maximilien, le mot de sobriété et de pauvreté, et vous avez cet extrait aussi dans votre ouvrage du Père de Chergé, vous savez, qui était le
Oui.
prieur des Trappistes martyrs de Tibérine, et il dit: prendre un tablier comme Jésus, cela peut être aussi grave et solennel que le don de la vie, et vice-versa, donner sa vie peut être aussi simple que prendre un tablier.
Oui, en effet, donc ça c'est vraiment le génie des saints. On voit bien qu'il est complètement modelé par cette simplicité et par cette unité. Tous les actes qu'il pose, qu'ils soient grands ou modestes, spectaculaires ou non, il les fait avec beaucoup de simplicité. Il les fait avec tout simplement avec amour. Je pense ici à Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, je crois pas que je cite cet exemple, hein, qui dit ramasser une épingle pour l'amour de Dieu, c'est peut sauver une âme, il sauve une âme. Donc en effet, à partir du moment où on fait nos actions, même les actions les plus ordinaires, avec un cœur, on peut dire extraordinaire, c'est-à-dire avec un grand cœur, et donc avec simplicité, alors on touche le cœur de Dieu et on commence à acquérir, hein, cette simplicité et donc cette sainteté nécessaire.
Oui, vous avez cette belle expression dans votre livre d'exulter dans la monotonie. Et ça, c'est voilà une petite phrase à garder. Quelle attitude vis-à-vis de nos biens, Père Maximilien, permet de gagner en simplicité?
Comme nous l'avons évoqué, une façon d'être pauvre, c'est aussi de se limiter à peu, mais aussi c'est respecter le peu
Ah
qu'on
oui.
possède. Et donc je pense que être simple vis-à-vis des objets créés, c'est aussi les respecter, ne pas les gâcher, hein. C'est aux antipodes de notre mentalité consumériste. Donc c'est à la fois respecter les choses, ne pas les aduler, ne pas les idolâtrer, ces biens matériels, ne pas chercher à les accumuler. Vraiment une décence qui en fait renvoie à la sobriété, qui nous permet vraiment de vivre cet esprit de pauvreté qui est requis pour tout chrétien. Même si les religieux, eux, consacrent la pauvreté par un vœu, tout chrétien est invité à vivre cette pauvreté, c'est-à-dire un juste rapport avec les choses matérielles. On les respecte, on ne les adule pas, mais on l'étudie avec soin et aussi avec un esprit d'action de grâce, une reconnaissance, parce que on a ce qu'il faut pour manger, on a une table, on a une chaise, on a parfois des livres. D'où cette déformation qui serait de cet esprit de consommation, où on jette les choses, on les achète, où on accumule,
Ou en les
on
idolâtrant avec le
les
risque.
idolâtre,
Oui,
exactement, ou
ouais,
les
ouais.
dégradant,
Oui, c'est ça.
complètement.
Vous citez le pape François, l'accumulation constante de possibilités de consommer distrait le cœur et empêche d'évaluer chaque chose et chaque moment.
Oui. Ouais, en effet, c'est vraiment une des sources de dispersion, hein, les biens matériels. Arriver à trouver dans notre société actuelle qui nous permet d'avoir un confort appréciable, arriver à bien se positionner, ajuster nos comportements, hein, comme vous dites, sans idolâtrie, avec un respect des choses et pas un esprit d'avarice ou d'appropriation ou d'accumulation.
La simplicité, donc, elle se joue vis-à-vis de nos biens, elle se joue aussi vis-à-vis de notre entourage. Alors nous avez dit au début de cette émission, Père Maximilien, que c'était être vrai. Est-ce qu'il y a d'autres conseils que vous pourriez nous donner pour gagner en simplicité dans nos relations?
Alors, il me semble que pour gagner en simplicité avec les autres, avec nos amis, c'est justement, dans la mesure du possible, leur offrir des temps de qualité. Finalement, perdre du temps avec eux. Perdre du temps avec eux, c'est leur donner du temps. Et c'est vraiment une des clés de la simplicité. Si j'offre mon temps, si j'écoute la personne, j'écoute mon conjoint, j'écoute mon enfant, eh bien, c'est un vrai don, hein, qui va simplifier ma relation et me simplifier moi-même et me permettre de me révéler à l'autre et aussi que l'autre ait cette possibilité de se révéler. Trop souvent, entre deux portes, entre deux courses, entre deux missions, eh bien, finalement, on ne consacre à l'autre
Que
qu'une
des miettes
modeste part
parfois.
de nous-mêmes. Et donc l'autre est comme prisonnier. Et donc lui donner, ouvrir des portes tout simplement à cet autre, qui lui permet de se dévoiler et ensuite moi-même de me dévoiler à lui.
Et vous dites que vous citez saint Thomas d'Aquin en disant que la simplicité manifeste l'absence de duplicité, de désaccord entre l'intérieur et l'extérieur.
Oui, tout à fait. C'est d'où le bien sûr la. La prohibition, la condamnation de tout mensonge, que nos paroles soient vraies, que nos comportements soient vrais. Nous évitons bien sûr tout ce qui serait hypocrisie ou simulation. Parfois, on n'est pas tenu de dire la vérité parce que l'autre n'a pas à l'entendre, ou c'est trop lourd, ou c'est pas le moment. Et ça, c'est la vertu de prudence qui va me permettre de discerner. Mais de façon ordinaire, hein, l'autre a droit à ce que ma parole, et doit exige que ma parole soit conforme à ma pensée. Ça, c'est ce qu'on appelle la véracité.
La véracité. Un dernier mot peut-être pour conclure, Père Maximilien Lefébure-Dubus, sur cette simplicité, puisque ce petit ouvrage nous donne quand même des indications pour non seulement découvrir cette vertu, mais aussi pour la mettre en place, en tout cas la développer. Et vous terminez par cette citation de saint Augustin, un cœur pur n'est pas autre chose qu'un cœur simple.
Oui, très belle citation en effet de notre père Saint-Augustin, puisque je suis, mon abbaye suit la règle de Saint-Augustin, puisque nous sommes des chanoines dérégulés, comme notre cher pape Léon XIV. En effet, là aussi, c'est un synonyme finalement de la simplicité, la pureté, puisque est pur ce qui est sans mélange, hein, ce qui est sans scorie. Un minéraire pur, c'est un minéraire intègre. Et donc, on voit bien aussi que c'est un lien avec la pureté, pureté physique, pureté morale. Et donc, l'homme simple, que ce soit le petit prince de Saint-Exupéry, ou Sainte Bernadette, ou Mère Teresa, ou Saint-Maximien, ou Zachée, ou même Marie-Madeleine, c'est des personnes qui ont réussi à unifier leur être et faire qu'il n'y ait en eux aucune partie et comment dire aucun matériau
Aucune scorie.
extérieur, oui, aucune scorie, hein, un minéral pur, hein, et qui a été peu à peu purifié, en effet, comment, hein, à travers les épreuves, à travers la vie sacramentelle, à travers l'oraison, à travers la prière, hein, qui peu à peu a purifié, hein, comme on purifie un minéral, hein, ou on purifie l'or, hein, dans la fournaise, hein, c'est une thématique très classique dans la tradition spirituelle, hein, être purifié par le feu, hein,
Oui,
le
c'est
feu de
vrai.
l'amour, mais aussi parfois le feu de l'épreuve.
Merci beaucoup, Père Maximilien Lefébure-Dubus. Je rappelle le titre de votre livre, Éloge spirituel de la simplicité, aux éditions Arthège. Et vous nous avez éclairé sur la simplicité qui permet, je vous cite, de lâcher prise et de placer en Dieu notre centre de gravité. Merci beaucoup.
Merci Isabelle.
C'était Vivante Église, votre émission quotidienne de la vie chrétienne en Occitanie.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.